BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer.
Ah, il fait froid sur une grande partie de la France. On va ouvrir les portes du congélateur, dégivrer vos placements, les sortir du glacis pour les confronter aux solutions d'investissement d'aujourd'hui. Pendant encore une heure de dégivrage donc sur l'ensemble de vos placements au rythme des marchés. Bienvenue à tous d'ailleurs si vous nous rejoignez en direct. Le CAC 40 à 17h, passé de quelques minutes, le CAC 40 recule de 0,29%. On est en train de limiter un peu nos pertes. Ouais. 7029 points, on préserve donc les 7000 points malgré cette petite séance de respiration. C'est vrai que le rallye semble rouillé. Ça fait quelques séances maintenant que les indices semblent davantage manquer de souffle qu'en tout début d'année. On se demandera si l'essentiel de la hausse qu'on pouvait attendre pour 2023 est désormais déjà derrière nous. On posera cette question à nos experts. On va revenir aussi sur le signal qu'envoient les entreprises et la réaction des marchés à leurs publications. Alstom notamment, qui ne relève pas ses prévisions pour la suite. Le marché déçu, Alstom à Paris perd quasiment 1%. ASML aussi dans les semi-conducteurs. Le titre à Amsterdam recule un petit peu, mais c'est surtout aux États-Unis qu'on a quelques déceptions marquantes encore aujourd'hui. Boeing recule d'ailleurs de plus de 3% en ce moment à Wall Street. Et puis Microsoft recule de 3% aussi. On va y revenir aussi en détail. On va se demander si la publication de Microsoft est annonciatrice de ce que nous diront les géants de la tech dans les prochains jours. La semaine prochaine, les autres GAFAM vont à leur tour publier. Puis ce soir, Tesla à suivre aussi après la clôture. On est à vos côtés, on joue dans votre camp donc jusqu'à 18h. Et tout de suite, Faiza également nous rejoint. Faiza Younzi pour parcourir le reste de l'actualité économique du jour. On va démarrer par les bonnes nouvelles, de nouvelles bonnes nouvelles sur le front du chômage en France.
BFM Business, l'info éco.
Et en effet, le chômage a nettement reculé en France en fin d'année dernière. Il a baissé de 3,6% en catégorie A au quatrième trimestre après avoir stagné au trimestre précédent. Avec 114 000 demandeurs d'emploi inscrits en moins, le niveau de chômage en catégorie A atteint son plus bas niveau depuis 11 ans. L'économie allemande devrait échapper à la récession cette année. Selon le gouvernement, l'activité résiste mieux que prévu aux conséquences de la guerre en Ukraine. L'Allemagne devrait enregistrer une croissance de 0,2% en 2023, alors que Berlin prévoyait il y a encore peu une contraction de 0,4% du PIB. La réforme des retraites, toujours dans l'actualité en France. Les leaders syndicaux se sont réunis tout à l'heure pour organiser la mobilisation dans la durée. Du côté de la RATP, l'intersyndicale appelle à la mobilisation pour le 31 janvier prochain, pour la deuxième journée de grève nationale. À la SNCF, CGT et Sud se préparent à une grève reconductible dès la mi-février. D'actualité d'entreprise, Boeing maintient ses prévisions pour cette année après des résultats trimestriels décevants avec un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars et une perte nette de 630 millions de dollars. L'activité du groupe américain reste freinée par ses problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Alstom publie un chiffre d'affaires en hausse de 8% sur son troisième trimestre décalé à fin décembre à plus de 4 milliards d'euros. Le constructeur ferroviaire est porté par la demande européenne plus forte que ce qui était attendu. Le constructeur ferroviaire confirme ses objectifs pour cette année. Des revenus records pour le canal de Suez. Il a rapporté 7,5 milliards d'euros à l'État égyptien en 2022, un chiffre en hausse de 25% sur un an. Une performance liée à la très forte reprise du commerce mondial. Et c'est encore un grand nom du monde de la culture britannique qui tourne le dos à British Petroleum. Cette fois-ci, c'est le Royal Opera qui met un terme à son partenariat avec le groupe pétrolier. Il emboîte le pas à la National Gallery ou encore à la Royal Shakespeare Company. Le mécénat de BP était sévèrement critiqué par les associations écologistes depuis plusieurs mois.
BFM Business. BFM Bourse. Le club.
Merci Faiza, vous nous accompagnez bien sûr tout au long de cette fin de journée pour continuer de parcourir l'actu en direct. Et on va tout de suite nous débriefer cette nouvelle séance, anticiper la suite sur les marchés, leur potentiel. Avec nos experts, nos coéquipiers du club, ils vont nous accompagner jusqu'à la clôture des marchés. David Go, bonsoir David.
Bonsoir.
Bienvenue sur le plateau de BFM Business, B Durand Capital Partners et puis Edmund Ching va nous rejoindre aussi dans un instant pour BNP Paribas Wealth Management. Bienvenue David.
Merci.
On est ravis de vous accueillir. Alors même si on aurait espéré peut-être meilleure séance, encore que, enfin, on préserve l'essentiel des gains en Europe, hein, tout va bien, le CAC 40 est toujours à plus de 7000 points, même si à Wall Street on a à nouveau une baisse plus forte qu'en Europe du fait des publications. Le S&P 500 perd un peu plus d'1%, le Nasdaq perd 2%, Nasdaq perd 2% alors qu'on a une détente obligataire, donc c'est vraiment sur le front des publications qu'il y a un petit souci peut-être en ce moment pour les indices américains. Avant de rentrer dans le détail de Microsoft notamment, est-ce que vous avez une première impression peut-être plus définie après ces premières publications aux États-Unis? Est-ce qu'on est sur une saison de publication moins bonne que les précédentes? Est-ce qu'on peut commencer à le dire?
Alors, c'était déjà compliqué au troisième trimestre, parce qu'en fait, quand on regarde les publications américaines au troisième trimestre, quand il y avait des mauvaises nouvelles, en fait, elles étaient pires que ce qui était attendu. Donc il y avait déjà un petit peu des signes avant-coureurs que ici et là on avait des difficultés. Et là, ce qu'on voit dans ce début de publication, alors on a eu les banques déjà avec certains résultats corrects, mais aussi d'autres surprises négatives, comme Goldman Sachs. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on rentre dans le vif du sujet avec des exemples forts, vous le mentionnez, hein, Boeing et Microsoft. Et là, quand on rentre dans le détail, on voit qu'il y a de vraies difficultés. Le cas de Boeing, par exemple, c'est qu'il y a plus de volume, il y a plus de ventes, mais il y a aussi des pertes. Et là, on voit vraiment qu'il y a une compression, il y a une difficulté, en fait, non pas du fait de la demande, mais véritablement pour ces sociétés à produire de façon profitable et à pouvoir faire des livraisons en adéquation avec les prix qui avaient été acceptés il y a de ça probablement déjà quelques temps et les difficultés d'approvisionnement. Et donc, c'est des problèmes qui risquent de ne pas partir aussi vite. Et donc, notamment sur les États-Unis, ça explique probablement finalement le plus faible rebond du marché depuis le début de l'année. Hein.
C'est vrai. Et alors, on verra, on est un petit peu en retard sur les Américains en matière de publication d'entreprise. Ça va vraiment accélérer dans les prochains jours, demain pour le CAC. On verra si les publications sont l'occasion pour les marchés européens de confirmer leur capacité à surperformer Wall Street ou au contraire si ces publications vont nous ramener dans une forme de performance plus historique vis-à-vis des marchés américains. Mais là, c'est vrai que les publications américaines déçoivent un petit peu et donc Wall Street fait à nouveau moins bien que l'Europe sur les indices. On a vu 3M aussi dévoiler des prévisions décevantes pour la Suisse, Texas Instruments, David qui a accusé la première baisse de son chiffre d'affaires trimestriel depuis 2020. Bon. Et puis Microsoft. Est-ce que d'ailleurs cette publication qui déçoit de Microsoft, le titre perd 3% là, est-ce que cette publication à vos yeux est prédictif de ce que nous annoncerons aussi les autres géants de la tech dans les prochains jours?
Ben, ça pourrait même être pire pour les autres géants de la tech, en fait, hein, parce que Microsoft, c'est quand même celui qui a une activité récurrente, avec les abonnements, en fait, aux différents services de software, qui traditionnellement sont quand même des services qui sont assez résilients et assez solides, même quand il y a des baisses d'activité ou de demande. Mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres de Microsoft, on est en chiffre d'affaires au quatrième trimestre, on est en hausse de 2%. Année sur année. En termes de profit, on est en hausse de seulement 5%. Donc là, on a un petit peu des profils de résultats qu'on connaît plutôt dans les services publics ou dans les grands secteurs traditionnels. Or, les valorisations de ces géants sont encore entre 25 et 30 fois les profits, ce qui est extrêmement élevé. Bon, on sait déjà que pour les autres, hein, les autres grands géants, vous preniez Netflix, vous preniez Amazon, vous preniez Alphabet, on sait que il y a déjà eu une compression des marges très forte sur les trois premières trimestres de 2022, et cette compression risque de se poursuivre sur ce quatrième trimestre. Donc oui, de ce point de vue-là, vraisemblablement, on risque encore une fois d'avoir un trimestre avec des résultats négatifs qui sont encore plus négatifs qu'attendus.
D'autant que, en termes de valorisation, Microsoft n'est pas la plus chère des GAFAM. Hein. On est plutôt parmi les moins chers des GAFAM et on voit quand même cette baisse aujourd'hui de 3%. Donc, on peut imaginer que les GAFAM un peu plus chers, qui viendraient à éventuellement décevoir, reculent aussi. Donc, beaucoup de participants, d'intervenants de ce club au quotidien nous disaient ces derniers jours, on va renforcer la tech. Là, les publications pourraient pousser un certain nombre d'entre eux ou devraient les pousser à attendre un peu, peut-être, de futurs points bas pour revenir?
Ça va se faire titre par titre, en fait. On est vraiment entré dans une ère où c'est plus seulement tout un secteur qui monte ou qui descend, mais il va falloir différencier. Revenant sur Microsoft, c'est vrai que même la partie cloud, qui est quand même la star de l'entreprise, n'arrive pas à être l'engin suffisant pour entraîner l'ensemble du groupe. Alors, ça pose la question aussi de croissance externe. Parce qu'on pourrait dire il va y avoir des fusions et acquisitions. C'est des groupes qui vont se relancer avec plus d'acquisitions externes pour essayer. Mais tout ça va prendre du temps et dans l'intervalle, en fait, cette croissance organique va être assez limitée. Et donc, sur la tech, ça va être vraiment société par société. En même temps, il faut noter que sur les sociétés de software, il y a un univers très large aux États-Unis. On a un grand nombre de sociétés. On attendait qu'elles deviennent profitables cette année, en 2023. En fait, dans les projections, c'est des groupes qui, théoriquement, doivent passer un seuil extrêmement important. Donc, on va avoir là un test extrêmement intéressant entre celles qui, arrivent à maintenir ces trajectoires. Mmh. Et là, probablement, le marché sera prêt à payer des primes. Et puis, celles qui calent. et qui nous disent, bah, finalement, on va reporter notre profitabilité, notre seuil de profitabilité à peut-être 1 à 2 ans. Et là, le marché, vraisemblablement, sera sans pitié.
Il faudra peut-être... Alors voilà, on a tous ces signaux d'arrivée, enfin de maturité, voilà. Ouais. Début d'une certaine maturité sur les grands acteurs de la tech. Il va falloir peut-être une nouvelle disruption pour à nouveau les secouer. Est-ce que l'intelligence artificielle, et vous parliez des investissements de Microsoft, 10 milliards à nouveau investis auprès d'OpenAI, qui a lancé ce fameux robot chat, ChatGPT, dont tout le monde parle, que beaucoup de gens tentent de tester, enfin voilà, qui démocratise l'intelligence artificielle. Est-ce que vous vous dites que c'est par l'intelligence artificielle que viendront les nouvelles sources de croissance et peut-être d'une croissance à nouveau stratosphérique pour la tech?
Alors, y a déjà un phénomène de normalisation après Covid, c'est-à-dire qu'on a une croissance exponentielle anormale. Donc là, il faut cette phase de normalisation. Après, certaines de ces sociétés vont retrouver un rythme de croisière, probablement de croissance de l'ordre de 10 à 15% oui. des profits.
Ça ne pas surestimer leur ralentissement.
Tout à fait. Donc c'est l'aspect... Après, sur l'intelligence artificielle, il va y avoir le grand sujet de la monétisation de cette intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on fait payer ce service? Comment est-ce qu'on arrive véritablement à créer un business model sur cet aspect? On le sait, ça prend du temps. Il y a des tentatives, il faut faire des essais, il y a des régulateurs qui vont rentrer en jeu, il va y avoir des droits, notamment sur toutes ces données en fait qui sont récupérées par l'intelligence artificielle et qui sont mises au service des utilisateurs. Il va y avoir un partage en fait des gains qui va devoir se faire. Donc tout ça est encore très flou et donc oui, c'est pour ça que la tech reste essentielle, mais on est clairement dans un creux de vague où les profils de croissance vont être relativement plus normaux. Et surtout, vous avez des secteurs plus traditionnels qui vont probablement faire mieux. C'est-à-dire que l'énergie, les services publics, tout ce qui est production alternative énergétique, et puis peut-être même l'immobilier dans certains secteurs, vont avoir des rythmes de croissance en fait supérieurs.
Et à ceux de la tech.
Oui, on peut avoir des profils en fait de hausse avec l'inflation qui est en cours. Si le crédit n'étouffe pas l'ensemble. Alors c'est pas aux États-Unis, c'est un vrai sujet l'immobilier actuellement. Dans le reste du monde, l'immobilier pour l'instant, alors il y a un ralentissement, mais c'est pas non plus une cassure nette. Et là, on va avoir des rythmes de croissance qui sont intéressants, et ce sont des secteurs qui payent des dividendes, ce que ne fait pas la tech. Donc on a là un arbitrage qui peut continuer de favoriser des secteurs value.
Et donc, alors vous en avez en tête, et puis après on parlera de géographie aussi, parce que si la value et si les secteurs, en tout cas value, présentent des performances cette année peut-être meilleures qu'un certain nombre d'entreprises de croissance, on peut imaginer que l'Europe en profiterait plus que les États-Unis, puisque le profil européen est plus value que le profil des marchés américains. Mais juste avant, les secteurs qui pourraient en profiter, est-ce qu'on peut les déterminer peut-être encore un peu?
Alors, dans tout ce qui est industriel, il va y avoir des secteurs qui vont bénéficier du redémarrage de la Chine. Et donc du retour d'activité qui va être assez positif. Donc là, l'Europe est bien positionnée, hein, parce qu'on sait que l'Europe a une corrélation plus forte, une exposition plus forte que les sociétés américaines en moyenne par rapport à la Chine. Donc ça peut expliquer aussi en partie la meilleure performance qu'attendue de l'Europe depuis le début de l'année. Et puis ensuite, vous avez l'ensemble de ces secteurs, donc consommation de base, qui peut passer un certain nombre de hausses de prix, et puis donc services publics, énergie, production, tous ceux qui sont capables d'une façon un peu récurrente d'augmenter leurs tarifs sans que finalement le consommateur puisse tourner le dos entièrement.
Et vous le dites, c'est vrai que l'Europe est mieux positionnée que les États-Unis pour bénéficier de la réouverture chinoise. Est-ce que c'est vrai aussi des entreprises européennes? Est-ce que du coup les publications et surtout les perspectives qui vont être annoncées pourraient être plus favorables du côté des entreprises européennes de ce fait que du côté des entreprises américaines?
Ça rejoint le point, c'est qu'on aura probablement moins de mauvaises surprises côté Europe que côté États-Unis. Alors, la Chine, c'est en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est le tout début de ce redémarrage. Ça va se faire sur plusieurs trimestres. Et en plus, on a des taux d'intérêt en Chine qui sont extrêmement faibles. Donc, le financement en Chine, la consommation en Chine sont tout à fait favorisés actuellement. Donc, on peut espérer véritablement un élément positif, inattendu dans les perspectives. Et finalement, les prévisions sur l'Europe, à la fin de l'année dernière, étaient relativement conservatrices. On s'attend toujours à ce rebond américain. L'Europe, finalement, on avait été plus rapide à baisser les attentes. Et donc, bon, ça reste à prouver hein, dans les semaines à venir, mais on pourrait avoir finalement des managers et des patrons qui nous disent, finalement, ça tient encore à peu près la route.
On va continuer d'en parler, bien sûr. David Gaud nous accompagne pour essayer de débriefer un peu ces toutes premières publications aux États-Unis. B. Durand Capital, que vous représentez sur ce plateau. Les États-Unis, on va y retrouver tout de suite notre correspondante. On va rejoindre à New York Sabrina Quagliozzi. Rebonsoir Sabrina, ravi de vous retrouver pour revenir sur la réaction des marchés américains à ces quelques publications importantes aujourd'hui, qui étaient très attendues. Les trois indices américains sont clairement dans le rouge en ce moment. Il est 11h18 chez vous, Sabrina. Les trois indices perdent chacun plus d'1%.
Oui, effectivement, et c'est l'indice Nasdaq qui perd le plus. L'indice Nasdaq qui avait pourtant bien surperformé depuis le début de l'année. Le Nasdaq qui recule actuellement d'1,6%. On est à 11 151 points sur l'indice. Le S&P 500, de son côté, perd 1,3% sous les 4 000. Le Dow Jones, qui a enchaîné trois séances de progression, cède 1%, 33 374 points. Des marchés qui s'inquiètent, bien sûr, suite aux annonces du géant Microsoft. Avec des inquiétudes sur la santé des entreprises, sur la santé de l'économie américaine dans son ensemble, avec Microsoft donc qui a publié ses résultats hier soir après la clôture, des chiffres qui sont légèrement supérieurs aux attentes, en tout cas si on regarde le net, qui certes a quand même reculé 12% sur le trimestre écoulé, mais dans le détail, vous avez le chiffre d'affaires qui ne grimpe que de 2%, c'est la plus faible croissance des revenus depuis 2016, baisse des revenus dans le compartiment Windows, les jeux aussi, Xbox, software et donc hardware, malgré une solidité quand même toujours du compartiment cloud computing avec un gain quand même d'Azure de 31% des revenus pour Azure. Mais en décembre, c'est ce que nous a dit le directeur financier, Microsoft a noté un essoufflement également de cette partie et ça va se poursuivre, nous dit Microsoft, avec des prévisions qui ont jeté un froid, donc beaucoup de prudence pour Microsoft, qui recule actuellement de 2% tout juste. On est à $237.28 qui pèse sur la tendance, sur les valeurs technologiques tout particulièrement. On aura ce soir Tesla qui publiera ses résultats trimestriels. IBM également doit publier ses résultats du trimestre écoulé, alors que l'on a eu d'autres publications dans les télécoms, AT&T qui a fait des annonces qui sont assez partagées. Et puis Boeing, cette perte qui a été dévoilé sur le trimestre écoulé. Problème d'approvisionnement toujours, problème de main-d'œuvre, malgré une hausse de la demande pour ces appareils. Boeing qui, parallèlement, a dégagé un free cash flow positif sur l'ensemble de l'année pour la première fois depuis 2018. Des publications donc digérées, analysées, décortiquées par le marché qui recule donc depuis ce matin l'ouverture. Le Dow Jones perd 1%, 33 403 points. Le S&P 500 sous les 4 000, c'est 1,12%. Quant au Nasdaq, c'est un repli d'1,4%. Une baisse qui se réduit néanmoins puisqu'on perdait pratiquement 2% sur les plus bas niveaux de la séance sur l'indice Nasdaq. En tout cas, 11 175 points pour le moment sur l'indice.
Merci Sabrina, vous nous accompagnez depuis Wall Street tout au long de cette séance américaine. Et puis en Europe, on est en train de limiter nos pertes. On n'est plus très loin de l'équilibre là sur le CAC. On ne perd plus que 0,1%, 7040 points. On est toujours largement au-delà des 7000 points. Lanterne rouge aujourd'hui, tiens, c'est Dassault Systèmes, moins 1,6%. Avec aussi Thales, moins 1,4%. Voilà les valeurs de croissance là qui souffrent un tout petit peu. À la hausse Engie, on est dans ces valeurs utilities dont on parlait aussi dans la première partie du club. Engie gagne un peu plus d'1% avec aussi Veolia, plus 1%. On achète plutôt des valeurs défensives aujourd'hui sur le marché. Puis quelques publications arbitrés et ASML dans les semi-conducteurs qui avait mal réagi au début, tout au long de cette séance à sa publication, bien finalement repasse dans le vert à l'instant, plus 0,1% à Amsterdam. Et puis Alstom de son côté limite ses pertes, Alstom qui ne relève pas ses prévisions pour la suite, ça avait eu tendance à décevoir le marché jusqu'ici, mais Alstom est en train de limiter ses pertes, on n'abandonne plus que 0,4%. On en parle avec ce soir David Go, il nous accompagne jusqu'à la clôture des marchés pour B Durand Capital Partners. David, le potentiel pour la suite après cette incroyable début d'année. Il va dépendre de l'ampleur des liquidités dont disposent les grands acteurs internationaux, les liquidités qui sont encore prêts à investir ou qui pourront un jour encore s'investir, venir s'accumuler et nourrir la hausse. Ils en sont où les hedge funds? Est-ce qu'on a une vision là-dessus sur ce qu'ils ont encore dans le ventre pour pouvoir nourrir la hausse des marchés de ce début d'année?
Alors la bonne nouvelle, c'est que sur 2022, en fait, les hedge funds ont plutôt bien fonctionné. Et donc c'est un peu le retour en grâce de cette classe d'actifs qui véritablement a fait son travail correctement, avec des baisses très limitées. Et dans de nombreux cas, en fait, sur des fonds macro notamment, ou event-driven, on a eu des performances positives sur l'année. Donc ces solutions qui sont généralement un peu décriées parce qu'elles ont tendance à être chères et être peu liquide, hein, puisque on ne peut pas rentrer et sortir d'un hedge fund aussi facilement, finalement se trouve tout à fait adapté à cette tendance. Et surtout, elles l'ont fait sans mettre trop de cash de côté. C'est-à-dire que véritablement, ils sont allés prendre des positions, ils ont eu des convictions. Mmh. Et ça, c'est plutôt de bon augure pour la suite, parce que quand vous êtes dans une analyse et un rythme de gestion vertueux, eh bien, vous avez la possibilité de suivre un peu mieux les momentum et les tendances. Et donc, ça reste des solutions de plus en plus intéressantes. Et ce sont des solutions qui se démocratisent, parce qu'on voit apparaître des fonds à la liquidité quotidienne qui copie en fait un certain nombre de stratégies hedge funds. Et donc même pour les gens qui n'ont pas accès à ces seuils minimes, parce qu'il y a un minimal, hein, il y a des montants assez élevés pour investir traditionnellement, donc ces fonds absolute return, des fonds qui copient les hedge funds à l'aide de solutions futures, on a maintenant une palette en fait d'accès. Et donc ça devient des outils finalement tout à fait stables, enfin pas stables dans le sens adaptés, à côté des actions et des obligations. Et donc dans une allocation globale, c'est ce qu'on appelle l'alternatif, hein, oui, le private equity, il faut vraiment se poser la question de est-ce que ça ne ferait pas sens d'avoir une poche hedge funds
pour apporter quel type de touche à un investissement, à un portefeuille d'investissement?
Alors juste pour en fait pouvoir
plus spéculatif.
Dans les phases, il y a beaucoup plus de moins spéculatif. Et c'est là que c'est le segment des hedge funds les moins spéculatifs sur lesquels il faut travailler, c'est-à-dire ceux qu'on appelle des markets neutres, pas ceux qui prennent des paris directionnels extrêmement élevés et qui vont faire du plus 40 ou du moins 60. Théoriquement, la classe d'actifs des hedge funds par année devrait rapporter entre 3 et 4%. Donc c'est pas spectaculaire, mais ils le font généralement, ils construisent cette performance généralement les années où tout le reste ne marche pas. Et donc c'est un bloc qui vous apporte une certaine linéarité et qui vous permet de lisser en fait votre performance et de dormir un peu mieux la nuit.
Comment est-ce que vous regardez dans cette incroyable remontée des marchés depuis le début de l'année? Le CAC 40 gagne toujours plus de 8% depuis le 1er janvier là en quelques semaines. C'est incroyable, c'est impressionnant. Comment est-ce que vous regardez aussi l'incroyable performance des actifs pour le coup les plus spéculatifs? Alors on voit le fonds ARK, oui, qui remonte aussi d'à peu près 20% là depuis le début de l'année, mais aussi certains titres, certaines sociétés de tech américaine, mais pas que de la tech, qui délivre pas de bénéfices, mais qui remonte de 20, 30, parfois 50% depuis le 1er janvier. Voilà, ces valeurs qui s'étaient effondrées et qui repartent là depuis le 1er janvier. Qu'est-ce que ça nous dit?
On a une catégorie d'investisseurs qui voit ça comme un bon point d'entrée. Après, on sait que ces valeurs, en moyenne, elles ont perdu entre 60 et 80% pour certaines d'entre elles de leur cours d'action l'année dernière, hein. Donc on a eu une chute vertigineuse, et donc reprendre 30% finalement, quand vous regardez la courbe, c'est pas si spectaculaire que ça. L'autre élément, vous mentionnez le fonds ARK Innovation, en fait quand on le compare sur les 5 dernières années par exemple avec le S&P industriel, donc les valeurs industrielles classiques, eh bien en fait sur 5 ans vous avez une meilleure performance sur ce segment plus classique industriel lourd, investissement en biens de capital pour la production, que sur ces valeurs technologiques. Et par contre, alors on voit l'énorme volatilité sur le segment technologique. Alors, je suis pas en train de dire que la tech c'est fini et qu'il faut s'en désintéresser, mais on a vu trop de portefeuilles exclusivement investis sur la tech, avec au fil des ans en fait une concentration qui a fait que ces portefeuilles étaient extrêmement chers, et que finalement maintenant que tout ralentit et que c'est beaucoup plus compliqué de générer des résultats.
Quand vous dites ces portefeuilles, on a presque envie de dire le S&P qui était dépendant à 25% des GAFAM et qui, du fait de la baisse de la tech, n'est plus entre guillemets dépendant qu'à hauteur de 19% aujourd'hui.
Oui, ouais. Mais ça reste quand même élevé par rapport justement aux autres indices boursiers mondiaux, et c'est peut-être aussi pour ça que les États-Unis continuent un peu de patiner par rapport.
Il vaut mieux un CAC 40 qui lui dépend à 25% d'un autre secteur, mais 25% c'est beaucoup, le secteur du luxe. Il vaut mieux ça que dépendre à 25% ou 20% de la tech.
À ce stade du luxe, à ce stade du cycle, Le luxe reste très porteur et a des armes probablement plus adaptées pour faire face à l'inflation. Et la réouverture de la Chine est un facteur supplémentaire.
Alors, on était en ligne tout à l'heure justement sur la Chine depuis Hong Kong. C'était aux alentours de 15h35. Il était là-bas 22h35 avec Jean-Marie Mercadal pour OFIAM, qui désormais travaille sur place et qui nous disait qu'à ses yeux, la Chine va aller largement au-delà des 5% de croissance que tout le monde attend pour cette année. La réouverture est dingue, nous dit-il. On est sans doute déjà, d'après ce que les experts se disent là-bas, sur le pic ou proche du pic de contamination sur le Covid avec les fêtes du Nouvel An. Et on va être tous surpris par l'ampleur de cette reprise, de cette remontée de la croissance chinoise. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui estiment qu'il va falloir réviser à la hausse les anticipations de croissance cette année en Chine ?
Oui, probablement. On est actuellement entre 4 et 5%, ce qui est un rythme de croisière relativement normal pour la Chine, théoriquement. Donc si on a un ajustement comme on l'a vu en fait dans les pays développés, on l'a vu, hein, ce rebond de consommation pendant plusieurs trimestres, ça va créer en fait des chiffres qui vont surprendre très certainement à la hausse. Et avec la faiblesse des taux d'intérêt, avec la relance des politiques monétaires, on a là un cocktail qui est fait pour réussir et c'est un marché qui reste peu cher. En fait.
Mais du coup, cette réouverture chinoise va-t-elle donner une deuxième vie à l'inflation, prolonger l'inflation à l'échelle mondiale et donc complexifier encore la tâche des banquiers centraux ? Il vient d'arriver de gagner quand même face aux embouteillages parisiens. Edmund Ching, bonsoir Edmund.
Bonsoir.
Bienvenue sur le plateau de BFM Business, BNP Paribas Wealth Management. La Chine, même question qu'à David à l'instant. Est-ce que vous estimez que la Chine va surprendre et offrir cette année, avec sa rouverture, une croissance largement au-delà des 5% qu'anticipent les autorités chinoises ?
Pas forcément largement, mais au-delà de 5%, je pense oui, parce que 2022 était une année très difficile et je pense que le compte financier va rebondir de manière très importante. Notamment le marché immobilier qui est de plus en plus stabilisé, la banque centrale en Chine augmente la liquidité et la croissance de masse monétaire énormément, donc remettre beaucoup de liquidité dans le système financier en Chine. Donc tout est là pour faire réussir l'économie chinoise à court terme. À long terme, c'est une autre question parce qu'on a toujours les problèmes démographiques, le manque d'enfants, comme d'habitude, qui va peser sur la croissance à long terme. Mais à court terme, je pense que ça va marcher.
À la fin de l'année, la Chine ne sera plus le pays le plus peuplé du monde. Hein. Ce sera l'Inde.
Oui. Je pense que c'est déjà le cas.
Oui.
Honnêtement, oui, je pense que l'Inde a déjà dépassé la Chine.
Bon, on va regarder tout ça, on va les compter un par un. Mais est-ce que cette réouverture chinoise et le rebond, le regain de croissance attendu cette année, vous le disiez, pas forcément durable pour les raisons structurelles, mais est-ce que cela va renforcer du coup l'inflation en deuxième partie d'année ? Est-ce que les marchés qui, depuis le début de l'année, se sont montrés euphoriques sur un ralentissement à venir des hausses de taux pourraient être déçus par la suite ?
Ah, c'est compliqué à dire parce que ça dépend énormément des coûts énergétiques, des prix d'énergie qui sont actuellement en baisse, surtout en Europe, mais on verra si c'est toujours le cas la deuxième moitié de l'année, parce que pour moi la question essentielle se pose sur le prix de l'énergie, notamment le prix de pétrole. Le prix de pétrole reste assez raisonnable pour l'instant. Cela dit, avec la réouverture de la Chine, ça risque de rajouter au moins 1 million de barils par jour de demande supplémentaire dans les systèmes mondiaux. Et ça peut peser énormément sur les prix. Et c'est tout à fait possible que le prix du pétrole remonte et le taux d'inflation avec.
Et donc, des surprises, des mauvaises surprises peut-être à venir des banquiers centraux ou pas, David ? Là-dessus, votre regard, est-ce que les marchés ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué ?
Il est certain qu'en plus, plus les marchés se portent bien, plus les chiffres économiques sont bons, plus on peut avoir une réaction des banquiers centraux qui se disent « poursuivons cette normalisation ». Et donc, attention à la réaction schizophrénique des marchés, parce que plus la macro s'améliore et semble tenir et être bonne, plus les marchés peuvent se dire « on va avoir droit à un deuxième round de hausse des taux et de resserrement monétaire ». Qui sera nécessaire.
Oui. En termes de, justement, d'investissement, Edmund, est-ce que les marchés sont montés trop vite ou est-ce qu'ils ont eu raison de monter et les niveaux de valorisation finalement actuels ne vous inquiètent pas ? Enfin, comment est-ce que vous regardez ce rythme de hausse ? Je vous pose la question parce qu'on a eu un incroyable rallye, mais ce rallye semble rouillé désormais. C'est un peu essoufflé depuis quelques jours.
Oui, je pense que le monde hors les États-Unis reste pour moi assez peu cher. Donc on parle des pays émergents, on parle de l'Europe, on parle du Royaume-Uni. Ces trois zones restent pour moi intéressantes, même aujourd'hui, quand on parle des marchés actions. Aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué, vu les résultats trimestriels des sociétés technologiques qui sont bon, un peu mitigés, pas forcément très bons, notamment si on regarde par exemple Microsoft, c'est pas top. Et les niveaux de valorisation, notamment des sociétés technologiques, aux États-Unis, restent quand même assez chers, pour moi, assez chers, malgré la baisse vue fin 2021 et tout le long de 2022. Mmh.
Donc vous imaginez l'Europe continuer de surperformer durablement? Alors c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Oui. Et sans doute grâce aux publications américaines qui, c'est vrai, déçoivent plutôt aujourd'hui, si bien que Wall Street recule de plus d'1%, les trois indices, notamment le Nasdaq, alors que l'Europe est quasi stable. On a une nouvelle surperformance aujourd'hui des marchés européens. Vous dites ça peut durer encore.
Voilà, je viens de parler beaucoup de nos clients, et pour moi, la plupart de nos clients restent très sceptiques du rebond. Et aux pays émergents et aussi en Europe pour l'instant. Ils sont toujours pessimistes. Ils croient pas. Malgré le fait que les statistiques économiques en Europe sont plutôt de bonne mine, meilleures que prévues en tout cas.
Oui. Quelle zone vous prenez? Tout sauf Wall Street, en gros, pour la suite
Oui, plus prudent sur les États-Unis. Il faut aussi voir où le dollar va évoluer, hein, parce qu'il a baissé un peu. Est-ce que cette baisse va se poursuivre? Après, si la Fed remonte les taux à nouveau, hein, et surprend avec 50 points de base en février, on pourrait avoir un rebond du dollar et là, on aurait une correction de l'ensemble des marchés à nouveau très possible, parce qu'on revient sur cette possibilité véritable que le resserrement monétaire n'est pas fini.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Edmund, c'était court du coup. Hein.
Désolé.
Et merci d'être arrivé jusqu'à nous quand même, d'avoir été tenace dans les embouteillages et d'avoir fini par arriver sur le plateau de BFM Business en toute fin de club. Edmund Ching pour BNP Paribas Wealth Management. Ben, bon retour du coup dans même chemin, mais à l'envers.
Merci. Voilà.
Merci David.
Merci.
De passer nous voir. David Go pour Bédurant Capital Partners, et qui aura tenu là toute cette demi-heure à mes côtés. Merci beaucoup. Dans un instant, on va rejoindre Étienne Braque depuis la tour Euronext pour vivre en direct cette clôture des marchés européens. A tout de suite sur BFM Business. C'est la clôture. Vous êtes bien sur BFM Business en direct. La clôture en Europe. On rejoint depuis la tour Euronext Étienne Braque pour voir si le CAC 40, qui limitait ses pertes en toute fin de séance, est parvenu à toucher l'équilibre, voire à passer dans le vert. Étienne, comment a-t-on terminé cette séance en Europe et sur le CAC du coup?
Neutre, puisque vous avez un indice parisien qui perd 0,09%. Autant dire qu'il est stable ce soir à la clôture. Il est toujours au-delà des 7000 points, 7043 points. Le tout avec des volumes d'échanges assez faibles. On se répète depuis le début de la semaine, mais il faut dire que ce soir encore, vous avez seulement 2,7 milliards d'euros échangés dans l'indice parisien. Beaucoup d'attentisme. Des marchés qui regardent un petit peu ce qui se passe aux États-Unis avec Microsoft qui finalement est en train de réduire ses pertes, hein, puisqu'on a un titre qui perd 1,7% actuellement, alors qu'il perdait bien plus à l'ouverture tout à l'heure. Et puis, dans le même temps, des publications en Europe qui ont été digérées de façon différente, hein, puisqu'on avait ASML qui était dans le rouge après la publication de ses résultats, le groupe qui a annoncé revoir légèrement à la baisse ses marges pour ce début d'année, et finalement un titre qui clôture dans le vert, plus 0,2% Amsterdam, au-delà des 600 euros à 617 euros. Mais preuve que le marché est prudent. Quand vous regardez les valeurs qui se distinguent ce soir, ce sont surtout des valeurs défensives, avec notamment Veolia ou encore Air Liquide qui affichent les plus fortes hausses de l'indice parisien, alors qu'à l'inverse, le secteur de la tech est dans le rouge dans le sillage des États-Unis. Dassault Systèmes, plus forte baisse, moins 1,8%. Vous avez également Téléperformance qui perd plus d'1%. Et puis hors CAC 40, vous avez des titres comme Soprasteria qui perdent quasiment 4%. 150 euros pour ce titre du côté du SBF 120. Et puis à noter les cours du pétrole qui là aussi se stabilisent aujourd'hui avec un baril de Brent qui retrouve les 86,70 $. Neutralité également sur le marché obligataire avec un 10 ans américain qui est parfaitement stable aujourd'hui à 3,48, et donc la Bourse de Paris qui limite les pertes finalement, puisque vous avez un CAC 40 qui perd seulement 0,09%. On est toujours au-delà des 7000 points, 7043 points, le tout donc avec des volumes une nouvelle fois assez faibles, 2,7 milliards d'euros échangés ce soir dans le CAC 40.
Merci Étienne, vous allez nous accompagner bien sûr Étienne tout au long de cette fin de journée, de cette soirée sur BFM Business, et puis vous qui nous suivez, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des interrogations sur votre compte-titres, votre PEA, votre portefeuille boursier, à nous les envoyer. Si vous nous suivez à la télé ou sur l'appli BFM Business, vous apercevez ce QR code, il suffit de le flasher, le scanner pour nous envoyer vos questions, et tout à l'heure vos questions trouveront leurs réponses sur les réseaux sociaux de BFM Business après 18h dans le grand débrief. Amaury de Tonquédec transmet en effet vos questions chaque soir à un expert de marché, tout à l'heure donc sur nos réseaux sociaux après 18h, les réponses de l'expert à vos interrogations, celles que vous nous envoyez en flashant ce QR code, ou encore si vous nous suivez à la radio par mail à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr.
BFM Business, BFM Bourse, on refait la séance.
Et pour en effet débriefer cette séance, vous apportez des idées également pour agir sur vos portefeuilles. Pierre Chang, gérant chez Tocqueville Finance, vient de nous rejoindre. Bonjour Pierre.
Bonjour Guillaume.
Et mon Julien Kistrebert aussi à nos côtés. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Directeur des investissements de Montségur Finance. Donc une séance presque pour rien sur l'indice CAC 40. Étienne le disait, on termine quasi stable dans de faibles volumes, avec des publications quand même arbitrées, intéressantes. Alstom ce soir recule de quasiment 1%. ASML, au contraire, finalement progresse. Le titre s'est retourné en séance. Hein, le géant européen des semi-conducteurs et ASML termine en petite progression de 0,2%. Avant d'en parler, Microsoft, sur les marchés américains qui fait tanguer tout Wall Street, le Nasdaq perd plus d'1%, les deux autres indices américains reculent aussi d'1%. Microsoft, après sa publication, reculait tout à l'heure de 4% à l'ouverture de Wall Street. On est toujours en baisse d'un peu plus d'1%, mais cette baisse tend à diminuer, à s'affaiblir, à s'amenuiser. Comment vous interprétez-vous alors la réaction des marchés à Microsoft? Est-ce que le marché se gratte la tête et s'interroge, ou est-ce qu'il se dit qu'effectivement il y a un souci chez Microsoft et que Microsoft, cette déception sur la publication est annonciatrice d'autres déceptions dans la tech?
Julien. Plusieurs choses hein, sur le cas Microsoft. Déjà sur la publication, à noter que au moment de la publication du communiqué, le titre a plutôt bien réagi après le marché, puisqu'il était en hausse de 4-5%. Ouais. Pourquoi ? Parce que la croissance notamment d'Azure hein, sur le cloud était assez forte, près de 38%, au-dessus des attentes. Et c'est un des sujets que regarde beaucoup le marché, c'est est-ce que la dynamique de croissance sur cette activité va se poursuivre ? Est-ce qu'elle va ralentir ? Probablement, on va y revenir après. Et où est le point, en tout cas le point bas de croissance sur cette activité ? Bon, on parle de point bas de croissance sur un niveau de 38% encore une fois. Donc,
c'est ça, il faut relativiser la déception.
Voilà. Bon, sur la publication, on va revenir. Donc Azure, très bien. La partie évidemment personnel computer, assez difficile. Hein. Il y a un effet de base qui est plus difficile. Post-Covid, explosion des achats d'ordinateurs, on le sait tous, ça se calme aujourd'hui. Mais sur le reste des activités, ça se passe plutôt bien. Donc, ils ont prévu sur Azure plutôt une croissance de 30-31% sur le prochain trimestre. Ce qui souligne, et c'est là la lecture transversale sur le reste du secteur, c'est un petit tassement, en tout cas, des investissements des entreprises américaines.
Dans le cloud.
Ils disent que c'est conjoncturel. On veut bien les croire, en tout cas, puisque la tendance structurelle, elle est là, elle est forte, c'est une évidence.
Le structurel, voilà. C'est du conjoncturel qui dure.
Voilà. Tout à fait. Mais donc pour revenir sur ce sujet-là, donc c'est ça le sujet. Après, l'autre sujet qui inquiète le marché, c'est le maintien des marges. Là-dessus, nous, on n'a pas trop d'inquiétude. Il y a un effet change qui va être un peu plus positif sur le prochain trimestre, parce qu'ils rapatrient beaucoup de revenus en euros. Donc quand l'euro est très faible, forcément, ça les impacte un petit peu. Ils ont passé des hausses de prix. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. Et puis, l'avenir avec OpenAI, l'intelligence artificielle.
Ah oui.
Sur lequel ils ont déjà investi 3 milliards de dollars depuis 2019. Là, ils vont remettre 10 milliards avec des synergies industrielles importantes. Intégration du chat GPT dont tout le monde parle dans Bing. Donc, est-ce que ça va permettre de relancer Bing face à Google ? C'est la question. Aussi sur les solutions Azure, ils vont offrir une solution cloud Open Azure AI qui va aussi intégrer ces solutions d'intelligence artificielle. Mmh. Plus sur la partie GitHub, donc là qui pour les geeks est plutôt l'appui pour les codeurs, ils vont aussi intégrer ces solutions d'intelligence artificielle pour améliorer le code. Donc globalement à 20 fois les résultats. Bon.
Vous achetez Microsoft ?
On est acheteur.
Vous êtes acheteur.
Ouais.
Tout ça pour ça. Non mais c'est intéressant, Microsoft, on achète donc du côté de Montségur Finance moins 1,2% désormais. Microsoft, la baisse est en train de se tasser peu à peu. Et vous qui regardez essentiellement le marché français, pour le coup Pierre, la tech, qu'est-ce qu'elle vous inspire la tech française? Vous avez envie de la renforcer dans les portefeuilles ou un peu de prudence? On va laisser passer la tech américaine d'abord pour voir ce que notre tech française a à proposer.
C'est-à-dire que la valeur tech qui se rapproche un peu plus, le plus de Microsoft, si on peut dire, c'est Capgemini dans le CAC 40. Et donc c'est vrai que ces derniers temps, en fait, le management de Capgemini avait plutôt essayé de tempérer un petit peu les ardeurs en disant que oui, il y a un ralentissement, mais cela dit, ça reste quand même extrêmement solide. Donc les entreprises continuent à se digitaliser. Toujours. Et aujourd'hui, la digitalisation, c'est quelque chose qui est complètement maintenant transverse, qui est intégré dans tous les secteurs, dans l'industrie également. Donc, en tout cas, Capgemini parie beaucoup sur la digitalisation de l'industrie. Et donc là, il y a encore beaucoup d'upside. Sinon, après la French Tech, il y a énormément de valeurs qui sont très différentes les unes des autres. Ce que je dirais, c'est, pour caractériser le secteur, c'est qu'il y en a beaucoup d'acteurs du secteur qui ont vraiment profité de tout le Covid. Hein. Donc, il y a beaucoup de segments de la tech qui ont beaucoup profité de ça et qui aujourd'hui
aujourd'hui, ont un effet de base un peu compliqué et c'était projeté sur des croissances qui seront peut-être légèrement inférieures. Et donc, c'est pour ça qu'il y a certains licenciements, même chez Microsoft, hein, ça licencie un petit peu, je crois avoir vu. Voilà, tout le monde licencie un petit peu. Je veux dire, pour moi, c'est pas.
En gros, les géants de la tech licencient un tiers des effectifs qu'ils avaient embauchés voilà. pendant la crise Covid ou juste après, voilà, pour répondre à l'incroyable explosion de la demande. Donc, on licencie sur tous ces effectifs assez gigantesques hein, qui avaient été embauchés, on en licencie un tiers.
Donc, il y a eu beaucoup d'exagération à la baisse post-Covid. Et là, il commence à avoir des opportunités. Maintenant, est-ce qu'on revient sur la tech? Nous, personnellement, mon approche du marché, c'est il faut plus l'opposition entre croissance, cyclique, value, share est moins évidente en ce moment. Ce qui marche et ce qui marche pas. C'est vrai que il y a eu des années où il y avait que la croissance qui fonctionnait. Oui. Dorénavant, c'est beaucoup plus mitigé.
Et on voit des valeurs de croissance
plus sélectif.
On voit des valeurs de croissance devenues value. Microsoft, c'est presque value. C'est à 17 de PE, c'est presque value. Microsoft, alors que c'est une valeur de croissance. Meta, n'en parlons pas, on est dans l'hyper-value là. Mais...
C'est vrai, donc les frontières sont un peu moins nettes que par le passé, je trouve.
D'accord. Bon, donc Capgemini.
Capgemini, voilà, une bonne valeur de fonds de portefeuille à conserver.
Vous êtes certain que le marché français va surperformer dans la durée? Non, je vous pose cette question, Pierre, parce que c'est vraiment votre credo. Oui, les actions françaises feront mieux que les autres en Europe et peut-être même que Wall Street, je ne sais pas, dans les prochaines années.
En tout cas, sur le continent européen, je pense que c'est le pays à privilégier. Nous, on pense que la bourse française pourrait faire à peu près ce qu'a fait la bourse allemande sur les 20 dernières années. Donc, on est sur le temps, je veux dire, moyen-long terme. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent aujourd'hui en Europe. Hein. La France est en train de... c'est vrai que pour nous, c'est très comparable à l'Allemagne, parce qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas parié sur l'Allemagne, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, la France, le CAC 40 en particulier, le SBF 120 aussi, est vraiment tracté par son segment du luxe, qui pèse entre 15 et 20% en fonction de ce qu'on met vraiment dedans. Et là, on a vu depuis le point bas du Covid, c'est-à-dire mars 2020, la France, le CAC 40 surperforme la plupart des places occidentales, hein, donc en particulier tiré par le luxe. Donc ça, c'est vraiment la locomotive. Ensuite, il y a plein d'autres valeurs dans la côte française qui sont liées à l'art de vivre à la française. Et nous, on pense vraiment que c'est un thème majeur pour les 20 prochaines années.
Okay,
voilà, je peux en parler longuement.
Hein, vous achetez quoi?
Non, mais arrêtez-moi si...
En 30 secondes, parce que oui, ok, il y a le luxe, mais sans le luxe, le CAC 40, le marché actions français ferait aussi mieux que les autres, ou c'est le luxe? C'est grâce au luxe et... Que grâce au luxe.
C'est ce qui se passe en fait, c'est la montée en puissance de la classe moyenne des pays émergents. Voilà, c'est ça. Ces gens-là sont demandeurs d'art de vivre. Et donc dans l'art de vivre, il y a plein de sociétés françaises. Forcément, ils sont aussi demandeurs de technologies vertes, de nucléaire aussi. Et ça, en fait. Ce sont beaucoup de savoir-faire que les Français ont. Et donc, dans la côte, il y a plusieurs représentants sur toutes ces thématiques françaises. Donc, il y a le luxe, il y a aussi le nautisme, par exemple. On a plusieurs acteurs du nautisme à Paris. Il y a également les spiritueux, vins et spiritueux. Donc, on a plusieurs acteurs du champagne. On a l'un des leaders mondiaux, Pernod Ricard. On a Rémy Cointreau, qui est une star du cognac, hein, bien sûr. Voilà quelques... Puis, on a aussi un champion du nucléaire avec Assystem, dans la côte, notamment.
Mais on n'a pas Tesla.
Non.
Tesla qui va publier ce soir après la clôture de Wall Street. Tout le monde, toute la planète finance hier soir après 22h sur les réseaux était en train d'épier Microsoft, la réaction en pré-marché de Microsoft, la réaction des investisseurs à la publication. Ça va être pareil ce soir avec Tesla à partir de 22h. Qu'est-ce que vous attendez de Tesla, de cette publication, les perspectives aussi, Julien?
Le sujet, c'est clairement les perspectives, puisqu'on connaît déjà les livraisons sur le quatrième trimestre, donc on est sur une croissance d'un peu plus de 30%. Bon, ce qui est en dessous des objectifs du groupe, qui était plutôt autour de 50. Donc, on voit qu'il y a un ralentissement, d'où les fortes baisses de prix qui ont été annoncées sur l'ensemble des marchés. Alors, d'abord en Chine, puis après aux États-Unis, en Europe et aussi au Japon. Et ce qu'on voit en fait dans ces baisses de prix, c'est que sur certains pays, en tout cas, l'idée c'est de rentrer dans les niveaux de prix où vous pouvez avoir des subventions de l'État. Donc, c'est d'accélérer les volumes, puisqu'ils ont beaucoup investi dans les nouvelles capacités qui ne sont pas remplis aujourd'hui. Et donc, tout l'enjeu pour eux, c'est de remplir les volumes. Donc, la conséquence logique, c'est que les perspectives sur les marges sont évidemment moins bonnes avec les baisses de prix significatives qui ont été passées. C'est près de 15% de baisse de prix en moyenne sur les véhicules, donc c'est massif. Mmh. Finalement, Tesla est peut-être un constructeur automobile comme les autres. Ils sont obligés aussi de baisser les prix.
Ce qui, pour les autres, est une vraie difficulté, parce qu'ils voient apparaître dans leur gamme de prix Tesla.
Exactement. Donc c'est un
prix équivalent, on achète peut-être plus une Tesla qu'une Zoe. Enfin, bon, voilà.
Tout à fait. On a vu aussi qu'il y a des concurrents chinois qui sont très bien positionnés, qui sont très agressifs, d'où les problèmes sur le marché chinois pour eux. Voilà. Donc le sujet, c'est est-ce que les nouveaux volumes vont compenser la baisse de prix pour remplir l'outil industriel et donc amortir les coûts fixes. Tout l'enjeu, il est là. Voilà. Donc, s'ils arrivent à maintenir leur objectif de croissance de 50%, en tout cas d'y revenir, effectivement, je pense que le marché sera soulagé. Donc, les discours, en tout cas, sur les premières semaines de l'année avec les baisses de prix seront évidemment très importantes.
Bon, Tesla, vous avez envie d'acheter ? On va voir la publication, mais comme... Non, plutôt moyen.
C'est trop cher.
Ouais. C'est trop cher. On est à combien, là, de PE, à peu près, sur...
Ah, le PE, je sais pas, mais en multiple de chiffre d'affaires, vous êtes à 4 fois le chiffre d'affaires. Alors que les constructeurs auto européens que vous connaissez, on est plutôt à 20%, 30%.
2 fois le PE.
Vous préférez Stellantis, vous, Julien? Eh oui.
Bon, alors,
Tesla, votre cœur va vers Stellantis.
Le secteur automobile est en train de vivre une révolution absolument incroyable, à une rapidité absolument folle. Donc, je trouve ce qui est passionnant avec les baisses de prix de Tesla, ce qui est fou, c'est que tout se passe en Chine en ce moment, donc vraiment l'électrification du parc automobile est en train de se faire à une vitesse absolument très rapide. Aujourd'hui, c'est une voiture sur quatre qui est électrique qui est vendue en Chine. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les acteurs européens sont carrément en train de se faire jeter de la Chine. Et sur le segment électrique, il n'y en a qu'un seul qui tient à peu près la dragée haute aux Chinois, c'est Tesla, quoi. Donc, si on se projette un peu dans quelques années, ça sera peut-être le seul survivant. Et donc là, tous les spécialistes allemands, BMW, Mercedes en Chine ont du souci à se faire. Stellantis a déjà jeté l'éponge, donc ça s'est réglé. Honda vient de le faire aussi. Et les Chinois vont venir en Europe. Hein, donc là, il va se passer aussi. Donc nous, clairement, dans cette logique-là, on privilégie les sous-traitants automobiles, en fait, plutôt que les Stellantis et tout ça. Donc on prend les sous-traitants parce que les sous-traitants, eux, peuvent fournir aussi aux Chinois. Donc on privilégie des acteurs comme Valeo ou Faurecia.
Voilà. C'est pas cher en plus. Ça a vraiment énormément souffert.
Et, voilà. Et en fait, il y a toute une histoire à faire autour de ces équipementiers qui ont beaucoup souffert en bourse ces dernières années. Et je veux dire, pour nous, la valeur préférée qu'on a dans les portefeuilles français, c'est Michelin. Parce que Michelin, en fait, l'intérêt, c'est qu'une voiture électrique, c'est plus lourd qu'une voiture à combustion. Donc, les pneus s'usent une vingtaine de pourcents plus vite que sur une voiture à combustion. Et donc, il faut des pneus un peu plus premium, où il faut les changer plus régulièrement. Et donc, pour Michelin, c'est vraiment une perspective très intéressante.
Intéressant.
C'est vraiment notre valeur préférée dans le secteur.
Très intéressant. Puis chacun de nos auditeurs et téléspectateurs pourra picorer parmi vos idées, messieurs. 30 secondes sur Alstom, la publication. On en a beaucoup parlé tout au long de la journée. Bon, finalement, c'est une toute petite baisse. Enfin, quand même, non, moins 0,9. Moins 0,9 ce soir en clôture. On est déçu par quoi sur Alstom?
Alstom s'est fait vraiment massacrer en bourse l'an dernier. Donc, ça a été très difficile. Et surtout, on vient de vivre depuis l'acquisition de Bombardier un moment compliqué avec Alstom. Ça a vraiment été très 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 dur. Aujourd'hui, on commence à sortir un peu la tête de l'eau de cette histoire Bombardier. Et maintenant, aujourd'hui, le challenge pour Alstom, c'est de reconstruire le free cash flow. Voilà. Donc, c'est régénérer du cash de manière soutenable, sachant qu'il y a beaucoup d'observateurs et d'analystes qui sont très dubitatifs sur cette perspective et qui nombreux ont anticipé une augmentation de capital, etc. Bon, donc le management dit non, on ne va pas en faire. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces publications, tout est à peu près en ligne, sauf les prises de commandes qui sont largement au-dessus des attentes. Et en tout cas, c'est extrêmement rassurant. C'est pas ça qui va décider de l'histoire d'Alstom. Ce qui va décider l'histoire d'Alstom, c'est comment exécuter les contrats de manière suffisamment efficace pour générer la trésorerie.
Voilà. Est-ce que vous achetez Alstom?
On en a en portefeuille.
Oui, vous en avez,
c'est
d'accord.
Une position importante.
En face de vous, vous avez un acheteur d'Alstom. Vous êtes à l'achat sur Alstom, Julien, après la publication, les perspectives,
le carnet commun. Non, mais la publication est bonne. Juste sur le carnet de commande, il y a une petite incompréhension sur un contrat de service qui a été signé en Angleterre, qui n'était pas prévu par les analystes, puisque c'est un ancien business d'une activité que Bombardier avait signé en 2014, qui a été reconnu en termes de service. Donc ça peut expliquer. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que les services, c'est plutôt bien margé. Et l'histoire est simple, hein. Ils font 5% de marge opérationnelle. Ils visent 8-10 de marge, c'est ce qu'ils faisaient historiquement avant l'apparition Bombardier. Donc si on croit à ça, bah, évidemment, il faut en acheter.
Ce soir, Alstom termine à 26,45 €. Il nous reste quelques secondes. ASML, le géant européen des semi-conducteurs, qui a vécu une séance particulière, hein, en baisse une bonne partie de la séance, et finalement, le titre termine dans le vert ce soir, plus 0,2% à Amsterdam. C'est vous ? C'est vous qui avez acheté en fin de séance,
bien sûr, massivement. Non, plus sérieusement, sur ASML, je pense qu'il y avait un peu de prise de profit parce que le titre avait bien rebondi. Publication solide, un peu d'inquiétude sur les marges. Toujours un sujet quand même qui n'est pas réglé, c'est l'arrêt des exportations vers la Chine d'une autre technologie, puisqu'il y en a déjà une qui est interdite, puisqu'une partie de cette technologie permet de fabriquer des semi-conducteurs qui permettent de construire des armes.
Donc et les États-Unis ne veulent pas.
Exactement. La Chine, sur c'était quand même 15% du chiffre d'affaires en 2021, donc c'est pas anodin. La bonne nouvelle pour eux, et on le sait, il y a une demande qui est très forte de côté TSMC, Samsung ou même Intel, puisqu'il y a le Chip Act aux États-Unis qui fait qu'on va construire des capacités aux États-Unis. Donc voilà, donc pas d'inquiétude. Maintenant, bon, c'est 26 fois les bidas, c'est bien payé. Ouais.
Merci messieurs de nous avoir accompagnés ce soir. Merci votre beaucoup. Lecture des différentes publications et vous qui nous suivez, si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à nous les envoyer en scannant le QR code qui apparaît chaque après-midi sur vos écrans ou encore à l'adresse mail bfmbourse@bfmbusiness.fr puisque dans un instant sur nos réseaux sociaux, Amaury de Tonquédec tentera de vous apporter des réponses à vos questions. Il les transmettra à son expert, ce sera à suivre donc dans un instant l'after, le débrief de cette séance sur nos réseaux BFM Bourse et BFM Business. Julien Kistrebert, Montségur Finance, merci Julien. Pierre Chang, Tocqueville Finance, merci d'être passé nous voir également, Pierre. À très bientôt. Le CAC 40 ce soir, moins 0,09%, 7043 points. Dans un instant, vous retrouvez Audrey Tcherkov et Guillaume Paul. Good evening business. Ils vous accompagnent jusqu'à 20h. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.